Europe 1. Europe 1.
14h, 15h.
On de la traconte.
Bonjour à tous. En écrivant l'histoire d'aujourd'hui, j'ai eu d'un bout à l'autre l'impression d'écrire un roman. Et pourtant, c'est une histoire vraie. C'est l'histoire d'une jeune Française qui parle chinois et qui, en quelques mois, se retrouve star en Chine. Et quand je dis star, je pèse vraiment mes mots. Elle est là en face de moi, cette jeune Française. Elle s'appelle Marine de Nicolas. Bonjour à vous.
Bonjour.
J'ai tiré mon histoire du livre que vous avez publié en 2017 aux éditions Ring, Le baiser de l'ouragan. Et donc en 2012, à l'âge de 22 ans, vous avez été enrôlé par un agent artistique chinois que vous appelez Monsieur Liu, qui vous a emmené jusqu'à la finale du The Voice chinois. Vous avez fait des concerts dans toute la Chine. Il vous a fait tourner des séries télé. Vous avez été juré au The Voice chinois à Pékin. Vous avez gagné beaucoup, beaucoup d'argent. Vous étiez très, très célèbre. Et ce monsieur Liu, on va le voir, est un personnage absolument surréaliste. Inquiétant aussi, mais surréaliste. Et puis tout ça s'est arrêté d'un coup. Et on va voir pourquoi à la fin de mon histoire. C'est une histoire que j'ai écrite avec Christophe Dumazer. La réalisation est de Céline Lebras.
Europe 1. Christophe Ondelatte.
Deux ou trois choses que je veux vous dire sur Marine avant de débuter sa folle histoire. Marine grandit près de Montauban, à Dieupentale. Et le bac en poche, elle se met à apprendre le chinois, le mandarin. Et agacée par les grèves à répétition à la fac de Toulouse, elle va faire une partie de ses études en Chine. C'est pour ça qu'elle parle bien chinois. Et en 2012, son professeur de chinois l'inscrit à la Coupe du Monde de mandarin, une compétition mondiale de langue chinoise. Et à 22 ans, elle est sacrée vice-championne du monde de mandarin. Et la compétition est retransmise à la télévision chinoise. Et un agent artistique chinois, Monsieur Liu, la repère. Une Française qui parle chinois. Et il l'appelle.
Mademoiselle, j'ai une proposition à vous faire. Je voudrais vous faire participer à l'Allée des Étoiles. Vous savez, c'est la version chinoise de The Voice.
Voilà comment ça commence. Jusque-là, Marine n'a chanté que dans sa salle de bain. Elle a rêvé de participer à l'émission Graines de Star, mais rien de plus.
Madame, Monsieur, nous sommes arrivés à l'aéroport international Pékin Capitale. Il est 14h35 et la température est de 18 degrés.
Et donc en octobre 2012, elle arrive à Pékin où Monsieur Liu l'attend.
Bienvenue en Chine, Momo.
Oui, Momo. Monsieur Liu a décidé que ça serait son prénom chinois.
Tu vas voir, tu vas te plaire ici. Suis-moi, je t'en prie.
Et là, désormais, Momo se retrouve dans une voiture de luxe en route pour Pékin. Assez vite, il réclame son passeport. Elle hésite.
Ne t'inquiète pas, tu peux me faire confiance.
Dans les jours qui suivent, Monsieur Liu la trimballe partout. Il la présente à des dizaines de gens.
Voici Momo, ma nouvelle protégée. C'est une jeune Française très talentueuse.
Il l'envoie dans un studio professionnel pour apprendre à chanter. Il lui fait faire des photos, essayer des robes, des combinaisons à paillettes. Et un soir, il invite à dîner toute l'agence, toutes les chanteuses qu'il manage et les employés.
Chers amis, je vous ai réunis ici ce soir pour vous présenter quelqu'un. Notre agence artistique accueille un nouveau membre. Je vous présente Momo, qui nous vient de France.
Et là, pas d'applaudissements. Il se met à beugler, il réclame qu'on remplisse les verres. Personne ne parle. Marine regarde les filles une par une. Pas une chinoise. Elle leur adresse un sourire timide. En face, rien. Le regard neutre, glacé.
Levons nos verres en l'honneur de Momo. Hein, buvons au succès de la compagnie et trinquons à ce qu'il y a de plus important. À notre avenir et à notre argent.
Et là, d'une seule voix, comme dans une secte, les filles disent « À notre avenir et à notre argent. » Gan Bay. Et hop, d'un coup, tout le monde avale son petit verre. Et Marine aussi. Pouah, la gorge qui brûle, le liquide qui l'envahit, les oreilles qui chauffent, les joues écarlates. C'était de l'alcool de riz. Marine regarde les filles. Elle se sent, comment dire, indésirable. Elles sont jalouses. Et Monsieur Liu les lui présente une par une. Il y a Sue, une Australienne, Kimi, une Camerounaise, perchée sur des talons vertigineux, Liz, une Canadienne, Julia, une jeune Russe au teint de porcelaine, et Michel, venu de Colombie. Il fait son marché partout dans le monde, Monsieur Liu. À part ça, Momo, ça lui plaît bien, sa nouvelle vie. Et dans les premières semaines, elle tombe amoureuse tous les quatre matins. Le dernier s'appelle Bob, c'est un Anglais. Et elle s'est fait une amie, une Chinoise, Lina. Pour l'instant, tout va bien.
Europe 1, on de la traconte.
Je vous raconte aujourd'hui l'histoire de Marine de Nicolas, qui sera là tout à l'heure, tirée de son livre « Le baiser de l'ouragan » qui paraît aux éditions Ring. Originaire de la région de Montauban, elle apprend le chinois. Invitée en 2012 à participer à la Coupe du Monde de mandarin, elle est sacrée vice-championne du monde. Et à cette occasion, elle est repérée par un agent artistique de Pékin, Monsieur Liu. Il lui propose de rejoindre son agence et promet de la faire participer au The Voice chinois. Marine se retrouve donc à Pékin, dans une agence qui fait travailler d'autres jeunes chanteuses qui viennent du monde entier, sous la coupe de cet étrange Monsieur Liu, qui a décidé de l'appeler Momo. Et assez vite, Monsieur Liu lui fait faire ses premières télés. Sur Beijing TV, CCTV 4, Hebei TV, un jeu rigolo sur Shanghai TV et l'émission musicale de Hunan TV. Il la montre. Il la prépare. Et un jour, elle est à Beijing TV, il entre dans sa loge, il chasse toutes les Chinoises qui sont en train de la pomponner, il fait pivoter sa chaise et il la regarde en tirant sur sa cigarette.
Tu es magnifique, une vraie déesse. Un diamant prêt à être taillé.
Et d'une voix à la fois ferme et douce, il ajoute.
Détends-toi, tout va bien se passer. Le professeur de chant me dit que tu as très bien travaillé. Bientôt, tu seras une star en Chine. Alors, si tu n'as pas encore totalement confiance en toi, aie confiance en moi.
Tu penses vraiment que je vais devenir célèbre?
Ne m'insulte pas, je t'en prie. Évidemment que tu vas devenir célèbre. J'ai tout prévu.
Une autre fois, sur une autre chaîne, CCTV 3, on l'invite au talk show de Bing Kang, qui est une star du petit écran. Une émission dont le but est de comparer les coutumes chinoises et les coutumes françaises. Quand elle arrive, on lui tend quatre feuilles de papier agrafées. Dessus, il est écrit ce que le présentateur va lui dire, et surtout ce qu'elle doit dire.
Rassure-toi, hein, tu n'as pas à apprendre par cœur, hein, tu t'en inspires, et tout ira bien.
La télé chinoise, bien bordurée, pas de place pour l'improvisation. Et le pire, c'est qu'elle parle chinois, mais pas couramment. Quand Bing Kang commence, d'abord elle le trouve sexy, mais elle ne comprend que la moitié de ce qu'il baragouine.
Alors Momo, dites-nous tout. Les Français sont-elles aussi romantiques qu'on le dit?
Oh, la question de naze. Et elle, vous savez ce qu'elle répond?
Oh, bien sûr qu'elles sont romantiques.
Surtout quand un beau présentateur l'invite à participer à son émission. Eh bien, public, qu'en pensez-vous? Est-ce que nous ne ferions pas un très joli couple?
Éclat de rire général dans le public, qui se met à crier « Des bisous! Des bisous !» Et Bing Kang s'en sort par une pirouette.
Une chose est sûre, les Françaises n'ont pas froid aux yeux, hein?
Et après, comme dans les contes de fées, Bing Kang vient la voir.
Tu as quelque chose de prévu ce soir? Je peux t'inviter à boire un verre?
Et voilà, sacrée Marine, elle devient la petite fiancée française d'une star de la télé. On est très loin de Montauban. Et là, c'est le grand jeu. Les banquets, les dîners aux chandelles, les belles robes, la carte bleue qui prend cher, mais elle gagne bien sa vie. C'est la belle vie. Mais à part ça, elle est en colocation avec Julia, la russe de l'agence. Et un soir, ça dégénère.
Dis-moi, maman, maintenant qu'on est en coloc, faut qu'on fasse connaissance. Tu chantes depuis combien de temps?
Oh, depuis toute petite?
Non, je veux dire professionnellement.
Je commence à peine.
C'est Liu qui m'a offert cette opportunité.
Tu veux dire que tu n'es pas une vraie chanteuse?
Et lui, il t'a directement engagée?
Quand je pense que je chante depuis que j'ai 12 ans, que ça fait des mois que je me farcis Liu, et c'est la nouvelle qui hérite de tout, il te paye une blinde en plus, je parie.
Disons que nous avons un accord. Si je termine finaliste de The Voice sur CCTV, alors on a convenu que...
Quoi? Tu es sérieuse?
Mais j'y crois pas. Il avait promis que c'était moi.
Et là, Julia file dans sa chambre et elle lance un morceau de hard rock à faire trembler les murs. Là-dessus, le téléphone de Momo vibre. Monsieur Liu veut la voir, chez lui. Et vous allez rire, il habite l'appartement 111, 111, parce qu'il est le premier partout. Et elle lui parle de ce qui vient de se passer avec Julia.
C'est normal, elle s'en morte de jalousie. Tiens-toi éloigné d'elle. Tu sais ce que c'est les filles, hein? Sa critique, sa manigance. Tu dois choisir tes alliés, et le meilleur allié que tu puisses avoir, c'est moi. Tu sais, tout le monde ici a fait le choix de me faire confiance. Les chanteuses, les ingénieurs du son, les assistants. Pourquoi, d'après toi? Parce qu'ils veulent un bel avenir. Et parce qu'ils veulent beaucoup d'argent.
Et là-dessus, il plonge ses mains dans un sac et il en sort une robe sans fin, rouge, avec des fils d'or brodés et une traîne. Momo est subjugué. Et puis il passe à la raison pour laquelle il l'a fait venir.
Comme tu le sais, la compétition de The Voice sur CCTV approche à grands pas. Je sais exactement comment tu peux arriver en finale. Mais avant, on va conclure un marché, toi et moi. Tu vas redoubler d'efforts. Le professeur de chant va te donner 6 heures de cours par jour. Plus de sorties entre copines. Hein. Pas de discothèque, pas d'alcool. Tu ne dois plus penser qu'à ta compétition. Tu travailles. Et moi, je m'occupe de l'enveloppe rouge qui t'enverra en finale.
Quelle enveloppe rouge?
Le gros chèque, pardi.
Oui, oui, vous avez bien entendu. Monsieur Liu a l'intention de corrompre le jury, d'acheter sa place en finale. Et il enchaîne.
À partir de maintenant, tu écoutes mes conseils. Et par pitié, ne pose pas un milliard de questions, je connais le métier. Je donne des ordres, tu obéis sans poser de questions. Et quand tu auras été élu, je m'occuperai de ta carrière. On fera 50-50 sur tout, hein? La musique, les concerts, les clips et la pub. C'est d'accord?
Oui, c'est d'accord. Marché conclu, Liu.
Vous y seriez allé, vous? Pas moi.
Europe 1.
Je vous raconte aujourd'hui l'histoire de Marine de Nicolas, qui sera là tout à l'heure, tirée de son livre « Le baiser de l'ouragan », qui paraît aux éditions Ring. Originaire de la région de Montauban, Marine apprend le chinois. Invitée en 2012 à participer à la Coupe du Monde de mandarin, elle est sacrée vice-championne du monde. Et à cette occasion, elle est repérée par un agent artistique de Pékin, M. Liu, qui lui propose de rejoindre son agence et promet de la faire participer au The Voice chinois. Marine se retrouve à Pékin et l'étrange M. Liu décide de l'appeler Momo. Et elle découvre que M. Liu a décidé de corrompre le jury pour la faire gagner. Et tel un tyran, il lui demande de travailler sa voix, de ne plus sortir et de lui obéir. Et ça se passe comme prévu. Momo accède d'abord à la demi-finale de l'Allée des Étoiles, le The Voice chinois, en chantant un air d'opéra chinois. Et elle accède à la finale. Monsieur Liu avait raison, et de retour dans la loge, il le lui fait bien remarquer.
« Je t'avais bien dit que tu pouvais me faire confiance. Alors, merci qui ?»«
Merci, monsieur Liu. »
Dans les coulisses, tout le monde lui dit
« Gongxi, Gongxi, félicitations !»
Je vous le dis tout de suite, elle ne va pas gagner la finale. Mais depuis le début, M. Liu ne lui parle que d'accéder à la finale. Rien de plus, ça lui suffit pour lancer son produit. Et à partir de là, comme prévu, Momo est une star, au point qu'un jour, une fille veut la prendre en photo pour que son chirurgien esthétique lui fasse le même nez qu'elle. Et les autres filles de l'agence, jalouses, jalouses.
Quelle poufiasse! On sait tous comment elle est arrivée en finale, celle-là. Elle s'est faite baiser par la moitié des directeurs artistiques, voilà. Et à mon avis, elle se tape Liu. C'est une pute.
Et un jour, elle entend les jalouses qui disent dans son dos, bien fort.
Il paraît que Bing Kang, le présentateur, a encore trompé sa femme. On l'a vu au bras d'une occidentale. Une fille très vulgaire, plutôt laide.
Et c'est comme ça que Momo apprend que Bing Kang est mariée. L'enfoiré, elle ne le savait pas. Alors elle l'appelle et elle le largue. Et à partir de là, Momo part en tournée dans toute la Chine. Sans vraiment d'ailleurs savoir où elle est, ni même si elle est au nord, à l'ouest ou au sud. Monsieur Liu la rentabilise, il l'appelle 10 fois par jour et il remplit son agenda à rabord. Et il l'emmène notamment dans des repas d'affaires avec de vieux Chinois très influents.
Aujourd'hui, vous avez devant vous l'excellence même, la plus chinoise des étrangères de ce pays, Momo. Tu vas nous faire le plaisir de nous chanter quelque chose, Momo.
Et elle se lève, et elle chante, et ils applaudissent. Mais après le dîner, M. Liu lui fait des réprimandes sur sa tenue.
Tu ne peux pas t'habiller comme ça, enfin. Tu es une star. Tu chantes comme une casserole, alors il faut bien que tu brilles d'une manière ou d'une autre, non? Compris?
Oui.
Ah, j'oubliais. Tu dois faire un effort pour boire, hein. Il faut boire avec tous ces hommes, hein. C'est ça le business ici. Si tu veux faire des affaires, il faut picoler.
Et maintenant, M. Liu s'est mis en tête de lui faire faire un duo avec un chanteur chinois nommé Dashing, qui vient d'entrer dans son écurie.
Tous les deux, vous représentez le romantisme de la France et la puissance de la Chine. La voix incroyable de Dashing et ce physique exceptionnel que tu as, Momo. À notre avenir et à notre argent.
Et Momo se retrouve à tourner un clip avec ce Dashing. Le tournage est inénarrable. À un moment, M. Liu se met dans une colère noire contre un technicien.
Il faut zoomer sur sa bouche, enfin! zoomer sur son décolleté. Là, tu vois, là, là, là. Tu piges ? Recommencez, tout est à jeter.
Mais nous venons de tourner pendant plus de 6 heures.
Je ne vous paie pas pour votre temps de travail. Tout ce qui compte, c'est le résultat. Demain, on recommence tout. Et je serai là pour m'assurer qu'il se passe quelque chose dans mon putain de froc.
Élégant, monsieur Liu. À part ça, le duo avec Dashing marche très fort. Monsieur Liu a encore fait des merveilles. Et Momo a 2 fois plus de travail. Elle mène en parallèle ses concerts en solo et ses concerts en duo. Elle passe ses nuits dans les avions. Alors souvent, elle s'endort au maquillage. Mais son compte en banque se remplit. Je n'ai pas le temps de tout vous raconter des tribulations de Momo au sein de l'écurie de chanteuse de Monsieur Liu. Mais il faut absolument que je vous raconte sa soirée avec Monsieur Wang, l'un de ces hommes d'affaires avec lesquels Monsieur Liu l'oblige à dîner. Ou à boire un verre, en l'occurrence. La scène se déroule dans un karaoké. Quand Monsieur Wang rentre, Liu se lève d'un bond.
Monsieur Wang, quel plaisir! Je suis heureux de vous voir, vraiment heureux!
Dashing, le chanteur, est là aussi. Momo essaye de savoir ce que ce Monsieur Wang fait là. Dashing lui répond.
Tu poses trop de questions. Et pourquoi si, et pourquoi ça? Tu dois seulement savoir une chose. Tant que nous sommes amis avec ce monsieur Wang et avec ce genre d'officiel, nous serons de plus en plus riches et célèbres. Point final.
Et là, Momo va aux toilettes. Et elle assiste à une scène incroyable. Elle voit monsieur Wang et un autre homme se partager un gros tas de bifetons et glisser le reste dans une enveloppe sur laquelle il est écrit « Monsieur Liu, elle est chez les mafieux. » Mais c'est pas fini. La soirée s'achève, le karaoké se trouve dans son hôtel. Elle veut rejoindre sa chambre et elle se retrouve dans l'ascenseur avec Dashing et Monsieur Wang, sous comme des cochons. Et au moment d'entrer dans sa chambre, Dashing bloque la porte.
« Ne sois pas si pressé, Momo. Ça ferait très plaisir à Monsieur Wang que tu passes un peu de temps avec lui. »
Monsieur Wang s'avance pour rentrer et Momo, in extremis, claque la porte. Elle a bien failli passer à la casserole.
Europe 1, on de la raconte.
Je vous raconte aujourd'hui l'histoire de Marine de Nicolas qui sera là tout à l'heure, tirée de son livre « Le baiser de l'ouragan » qui paraît aux éditions Ring. Originaire de la région de Montauban, Marine parle le chinois. En 2012, elle est repérée par un agent artistique de Pékin, M. Liu. Il lui propose de rejoindre son agence et de participer au The Voice chinois. À Pékin, l'étrange M. Liu décide de l'appeler Momo. Et il ne lui cache pas qu'il va corrompre le jury pour la faire gagner. Et effectivement, Momo parvient en finale du télécrochet. Et dans la foulée, elle part en tournée. Et bien sûr, elle raconte à Liu ce qui s'est passé avec Dashing et Monsieur Wang. Elle a tout de même failli se faire violer, avec la complicité de son partenaire, Dashing.
Dashing et toi, vous formez un duo du tonnerre. Je me fiche totalement de vos chamailleries.
Enfin, tu comprends pas. C'est pas quelqu'un de bien. Je ne travaillerai plus avec lui, que tu le veuilles ou non.
Mais tu te crois spécial. Tu ne l'es pas. Tu as juste eu la chance de me trouver sur ton chemin, c'est tout. Je t'ai sorti de ton existence médiocre. Sans moi, tu n'es rien. Tu es à moi, Momo. À moi. Et si je le décide, demain, tu es fini. C'est ça votre problème à vous, les étrangers. Vos politiques vous laissent croire que votre avis compte. Alors que nous, les Chinois, on a compris qu'il faut laisser les grands prendre les décisions pour les petits. Tu m'emmerdes, Liu. T'as pas le droit de me parler comme ça. Je suis pas une pute. Je suis pas ta chose. J'ai pas besoin de toi. Et d'ailleurs, je viens de recevoir une proposition des États-Unis. C'est un label qui me propose de signer. À la manière dont tu me parles, je suis à 2 doigts de te planter là. Très bien. Bonne chance aux États-Unis. Tu as 1 semaine pour me rendre les clés de ton appartement.
Et là, Marine part sans se retourner. Elle a menti. Elle n'a pas de proposition américaine. C'est du flan. Elle rentre chez elle et elle se retrouve bien seule. Et puis arrive le moment de rendre les clés. Elle entre dans le bureau de Liu. Elle dépose la clé.
Tu prendras bien du thé. C'est le meilleur de ma collection. Mets-toi à l'aise, Momo. Il serait dommage de se quitter en mauvais termes. J'ai l'espoir que malgré notre séparation, nous restions amis.
Et elle se dit pourquoi pas. Je vais peut-être avoir besoin de lui. Et là, Liu avance un pion.
J'ai reçu d'excellentes propositions. À en faire pâlir plus d'une. Je comptais t'en faire profiter, mais puisque tu ne fais plus partie de mon agence,
où veux-tu en venir exactement ?
Ah, ça t'intéresse ? Il y a un projet de série télévisée sur CCTV One. J'avais prévu de te mettre dessus, mais par la force des choses, j'ai décidé d'en faire profiter une jeune américaine magnifique, qui parle merveilleusement mandarin. Elle est bien meilleure que toi, d'ailleurs.
Donc tout va bien ?
Oui, enfin, cependant, j'ai une éthique en matière de business. Je privilégie toujours les anciens. Je suis prêt à oublier nos différends et à te donner une nouvelle chance. Si tu le demandes.
Non, non merci.
Et si je te dis qu'il y a 6-0 au bout du cachet. 6-0.
Et là, silence. Les mains de Marine qui se crispent, le doute.
Non, Liu. L'argent ne m'intéresse plus. Moi, ce que je veux maintenant, c'est être épanoui.
Concernant Daxing et M. Wang, je les ai congédiés tous les deux. Ils t'ont manqué de respect. Je ne supporte pas qu'on s'en prenne à l'une de mes protégées.
Elle sait qu'il ment. Mais...
Je suis touché, Liu. Il y aurait beaucoup de choses à changer pour que j'accepte de retravailler avec toi. D'abord, je veux que mon pourcentage soit augmenté. Je veux plus participer à tes dîners d'affaires, là. Et je veux plus entendre parler de ce port de Daxing. Et je veux participer à l'écriture et à la composition de mes chansons.
D'accord sur tout. Sauf le dernier point. Enfin, tu ne sais pas ce que veut le public chinois. Tout le monde s'en fout de ce que t'as à dire.
Alors je refuse.
Et elle se lève. Elle enfile sa veste.
Il y a autre chose, Momo. Je peux te faire devenir juré à The Voice.
Et là, elle se dit... Si je dis oui, je deviens une énorme star, très riche, mais je reste sa potiche. Alors elle hésite, mais le lendemain, elle revient le voir.
Marché conclu, Liu. Marché conclu.
Elle accepte. Elle défait ses cartons, elle reprend sa clé et elle devient jurée du The Voice chinois. Et maintenant, on l'appelle Professeur Momo. Elle est une superstar. Elle gagne beaucoup d'argent. Et sa série, elle la tourne. Et c'est son histoire. C'est l'histoire d'une jeune blanche qui débarque en Chine pour percer dans la chanson. C'est sa vie. Et elle devient célèbre. Une superstar dans toute la Chine. Encore plus riche, encore plus célèbre. Il ne lui manque plus que le prince charmant. Et elle le trouve un soir en boîte de nuit. Raphaël, un mannequin espagnol beau comme un dieu. Ça y est, elle a tout. Elle a la gloire, elle a l'argent, elle a l'amour, elle a tout. Mais... Elle tousse beaucoup en ce moment. Et elle vomit aussi. Elle vomit souvent. Raphaël est inquiet.
Tu devrais peut-être aller voir les médecins, non ? Enfin, j'ai pas le temps, t'as vu mon planning ?
Elle n'a pas le temps peut-être. Mais le lendemain, elle est aphone. Aphone. Et elle se dit, ça fait beaucoup. La toux, les vomissements, et maintenant la voix qui disparaît. Mais Monsieur Liu ne veut pas qu'elle s'arrête.
Tu me prends pour un japonais ou quoi ? Est-ce que tu as une idée de la somme d'argent qui est en jeu ? Il y a 4 concerts à faire, 4 villes, 4 jours. Tu prends l'avion, tu assures le show. ou bien tu me rembourses à la hauteur de mes pertes.
Alors elle y va. Le rideau s'ouvre, elle entre sur scène. Et puis, elle sent une sueur froide dans le dos. Elle trébuche, elle tombe. Et tout est noir. Et Marine se retrouve à l'hôpital. Et on lui découvre une tumeur au niveau de la poitrine. Un cancer. C'est grave. Elle doit tout arrêter. Elle doit rentrer en France. Là. Maintenant. Elle rentre. Et à Toulouse, on lui annonce que c'est un cancer à un stade très avancé. Un lymphome de Hodgkin. La tumeur fait 15 cm sur 10 cm. Il n'est pas certain qu'elle s'en sorte. Marine de Nicolas est là avec moi. Je veux qu'on raconte la suite de l'histoire. Pardon de m'être arrêté là. Elle est extrêmement longue, compliquée, votre histoire. Donc, je n'avais pas forcément le temps de tout raconter. Vous avez 29 ans aujourd'hui. Vous êtes là. C'est la preuve que vous vous en êtes sorti.
Tout à fait.
Ça a été long.
Ça a été long, ça a été compliqué, ça a été un chemin aussi.
Ouais.
C'est au moment où je suis tombée malade que j'ai réellement commencé à grandir et à comprendre tout ce que j'avais vécu.
Vous vous en êtes sortie par vos amis français, de votre bahut, de votre fac, vos vrais copains.
Ouais.
Est-ce qu'ils vous ont manqué là-bas ?
Énormément. Mais au moment où j'étais là-bas, je ne m'en rendais pas forcément compte. Et c'est en rentrant et en reconnectant avec les personnes qui sont vraiment importantes dans ma vie que j'ai mesuré l'ampleur de tout ça.
Vous pensez que votre cancer est le fruit de cette histoire douloureuse, stressante ?
Non, je ne pense pas. Je pense que j'étais malade depuis très longtemps, en fait. Et le diagnostic est tombé quand j'étais en Chine, mais j'étais déjà malade depuis plusieurs années. Donc ce n'est pas mon expérience en Chine qui m'a fait tomber malade. Je pense que ça n'a pas aidé, mais j'étais déjà malade en arrivant en Chine.
En arrivant en Chine. Les Chinois ont suivi votre rémission, votre rétablissement
Absolument pas.
Vous l'avez raconté sur votre blog, mais en français.
Oui, j'ai écrit un blog sur ma maladie. C'était vraiment un besoin que j'avais. J'avais besoin de m'exprimer à ce sujet. Mais je n'ai pas parlé à ma communauté chinoise. Je n'étais pas prête. Naturellement, j'ai écrit en français. C'est ce qui est sorti, c'est ce qui est venu. Et non, je n'ai pas fait d'annonce à mon public chinois, non.
Ils savent, à votre connaissance, que vous avez été malade, non ?
Non, ils ne savent pas, toujours pas.
Évidemment, Raphaël ne s'est pas occupé de vous.
Non.
Que d'illusions dans ce monde-là, n'est-ce pas ?
Oui, mais vous savez, quand ça s'est terminé avec Raphaël, pour moi, ça n'avait aucune importance.
Ouais.
Moi, ce qui était important, c'était de survivre, c'était de ne pas mourir. La petite amourette à côté, elle ne faisait pas le poids.
J'ai vu dans une interview, vous disiez « Aujourd'hui, je ne suis plus Momo, je suis Marine ». Alors, on va en profiter pour faire une petite rectification. J'ai fait une petite erreur dans mon récit, mais il est jamais facile de décrypter dans les livres l'origine des choses. En fait, Momo, c'est votre nom chinois depuis que vous apprenez le chinois. C'est pas Liu qui le choisit, quoi.
Il a essayé de changer mon nom, Liu.
Ouais.
Il voulait m'appeler par un autre nom,
ouais.
Yang Guifei, ouais. Je me rappelle. Et j'ai refusé, et c'est la seule chose que j'ai réussi à garder, c'était le prénom que je m'étais choisi. J'y tenais beaucoup.
Vous avez 29 ans aujourd'hui, est-ce que vous avez totalement renoncé à votre carrière en Chine ?
J'ai eu besoin de faire une longue pause, j'ai eu besoin de me retrouver.
Qui a duré 5 ans là ?
4 ans, ouais, ça fait 4 ans. J'ai eu besoin de me retrouver, j'ai eu besoin de savoir qui j'étais après tout ça. Est-ce que j'étais la pop star chinoise ? Est-ce que j'étais la cancéreuse ? Je ne savais plus. J'ai besoin de faire un tri, de me reconstruire physiquement, moralement, au niveau de la société aussi. Et j'ai eu besoin vraiment d'une longue pause pendant laquelle j'ai écrit ce livre. Et aujourd'hui, enfin, je commence à envisager de nouveau la Chine dans mon futur.
Avec Monsieur Liu ?
Sans Monsieur Liu, évidemment.
Il a essayé de vous faire revenir.
Oui, oui, il m'a proposé tout de suite après mes traitements. Donc je me rappelle, j'étais encore chauve. Et il m'a proposé, il m'avait dit « mais on te mettra des perruques, il n'y a pas de problème, reviens, on reprend ». Mais moi, cette maladie m'avait complètement transformée, m'avait faite grandir, je ne pouvais pas retourner au point de départ. C'était comme si j'avais rien appris.
Ouais. Il a suivi votre maladie, monsieur Liu, il a pris de vos nouvelles, donc.
Il a pris de mes nouvelles, oui, mais c'était de manière totalement intéressée.
Uniquement intéressée.
Business.
Uniquement business. Vous pensez que jamais il ne s'est soucié véritablement de vous?
J'en suis certaine.
Absolument certaine. Si vous prenez l'avion tout à l'heure, que vous débarquez à Pékin demain matin, on va vous reconnaître à l'aéroport?
Eh bien, je ne sais pas. C'est une très bonne question. Il faudra que je le vérifie.
Normalement, oui.
Peut-être.
Vous étiez vraiment très connu quand vous quittez Pékin.
J'ai eu une belle carrière, oui.
Ouais. Mm. Courte, mais belle.
Oui.
On va marquer une pause, je veux qu'on reprenne évidemment les choses au début, au moment où vous prenez cette décision d'aller vivre un conte de fées en Chine. A tout de suite.
Jusqu'à 15h sur Europe 1, vous écoutez Christophe Ondelat qui aujourd'hui vous raconte le parcours d'une jeune femme devenue star en Chine.
Je vous ai raconté aujourd'hui l'histoire de Marine de Nicolas, tiré de son livre paru en 2017 chez Ring, Le baiser de l'ouragan, qui est donc l'histoire d'une jeune Française qui, parce qu'elle parle chinois, est enrôlée par un agent artistique de Pékin, mafieux, j'avais écrit légèrement mafieux sur ma fiche, non, mafieux, mais qui tout de même réussit son pari, puisque vous avez été Marine de Nicolas en finale du The Voice chinois, que vous avez fait des concerts dans la foulée dans toute la Chine, que vous avez tourné dans des séries télévisées très populaires en Chine, et que vous avez même été jurée à The Voice chinois. Et puis tout ça s'est arrêté d'un coup en raison d'une grave maladie, un cancer que vous avez soigné pendant 4 ans en France et dont aujourd'hui vous êtes remise. Je voudrais qu'on revienne au début et je vais commencer, pardon, par une question de vieux con, mais vous n'êtes pas chanteuse à la base. Vous chantez dans votre salle de bain. Et on vous propose de participer à une compétition de chansons. Dès le départ, il y a un truc qui est bancal, qui est déséquilibré. C'est-à-dire que dès le départ, ça n'est pas la chanteuse qu'on veut. C'est une sorte de produit. Une Française qui parle chinois.
C'est vrai, c'est le cas. Je n'étais pas chanteuse. C'était quelque chose dont je rêvais quand j'étais petite. Je chantais dans ma salle de bain, à la kermesse de l'école. Mais je ne m'étais jamais pensée capable de le faire. Mais
Donc à la base, il y a un truc foireux.
Évidemment, c'était une stratégie. Oui. Lorsqu'on m'a proposé de le faire, j'ai pris le pari. Je me suis dit... Voilà, c'est peut-être mon rêve d'enfant qui revient, c'est peut-être le moment pour le vivre. Moi, je suis certaine qu'avec de la passion, du travail, de la volonté et un peu d'audace, on peut faire à peu près tout. Et donc je me suis dit, je pense que j'ai quelque chose à vivre là.
Je ne peux pas laisser passer cette occasion.
Non, j'avais quelque chose d'intense à vivre, j'aime l'intensité, j'aime l'aventure. Voilà, je l'ai fait. Je l'ai fait et je ne regrette pas du tout.
Peut-être que vous auriez dû partir avec quelqu'un, lancer cette aventure à deux. Vous n'aviez pas de fiancé à l'époque en France ?
Non, mais j'ai jamais eu besoin d'être accompagnée pour faire quoi que ce soit. J'ai voyagé toute seule quand j'avais 17 ans. Je suis allée bosser dans des bars au fin fond de l'Australie pour payer mes voyages. Donc j'ai toujours été indépendante à ce niveau-là. Voilà, si on commence à attendre les gens pour faire des choses, on ne fait rien. Donc j'avais pas peur.
Il aurait peut-être fallu quelqu'un pour que vous débriefiez tout ça au fur et à mesure. Parce que à partir du moment où vous rencontrez Monsieur Liu, avec qui est-ce que vous pouvez parler de vos doutes ?
Skype, heureusement, Skype est là. J'ai un lien...
Avec les Français.
Ouais, je suis très proche de mes parents et de mes meilleurs amis. C'est comme ma famille pour moi et je leur ai toujours raconté, ils m'ont toujours conseillé et leur message principal, ça a toujours été « Vis et reste toi-même ». Alors, j'ai vécu. Oui. Je ne suis pas toujours restée moi-même, mais c'est un chemin.
Ouais. C'est bien vu. À partir de quand est-ce que vous comprenez que M. Liu est un type sans foi ni loi ? Dès le début ?
Au premier regard, j'ai su que c'était un requin, mais je n'ai jamais vraiment placé ma confiance en lui. Je ne lui ai pas donné ma vie. Je lui ai donné du temps, de l'énergie, une période de ma vie, parce que j'avais aussi des choses à en tirer.
Ouais.
J'avais une belle aventure à en tirer. Ouais. Et ça n'a pas de prix, une aventure comme ça.
Vous voyez le bénéfice et le risque, quoi.
Oui, tout à fait. Mais je me disais, mais quel est le risque ? Au pire, ça ne me plaît pas, j'arrête.
Mm-hmm.
Donc voilà, je me suis lancée.
À notre avenir et à notre argent. Dès le début, il pose sur la table son système de fonctionnement.
Oui.
C'est le système de M. Liu, ou d'après ce que vous avez compris de la Chine, c'est un peu le système de la Chine d'aujourd'hui. Pognon, pognon, pognon.
C'est surtout le système de Monsieur Liu, je pense.
Ouais. Il n'y a que l'argent qui l'intéresse.
Oui, l'argent l'intéresse beaucoup, le succès, tout à fait.
Il n'a pas d'affect.
Non, 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 ils nous voyaient vraiment, nous, c'est...
C'est de la viande.
Oui, ils nous voyaient comme des produits, voilà, comme des produits. C'est ça, quand on travaille avec l'humain et quand on vend des émotions, parfois on peut se retrouver dans ce cas de figure-là. C'est pour ça que c'est très important de bien s'entourer, de personnes bienveillantes, de personnes qui veulent partager et être dans la transmission et pas seulement dans le bénéfice.
Il a zéro morale ?
Non.
Hein ? Aucune ? Non, en même temps, vous, en face, vous avez 22 ans. Mm-hmm. Et il va vous offrir une vie de rêve. C'est-à-dire que ce qui est assez paradoxal dans cette histoire, c'est que c'est un sale type, mais qui quand même va au bout de ses promesses. Il a dit « je ferai de toi une star », il a fait de vous une star.
Je suis très reconnaissante d'avoir rencontré M. Liu parce qu'il m'a énormément appris. J'ai appris à être patiente, j'ai appris à encaisser des coups durs, j'ai appris à prendre sur moi, j'ai travaillé énormément parce qu'il m'a poussée à le faire. Aujourd'hui, je peux dire que je suis chanteuse, grâce à lui aussi. Mmh. Pas seulement grâce à lui, parce que j'avais quand même un terrain, j'avais quelque chose, mais il a réussi à sortir des choses de moi. Et il m'a prouvé que j'étais capable de faire de grandes choses si j'en ai envie, et si je travaille pour. Donc je suis reconnaissante pour cette expérience, comme toutes les expériences que j'ai eues dans ma vie, en fait.
Il a tout de même acheté votre place en finale de The Voice, c'est quand même un truc de dingue, et puis il le dit, quoi. Mm-hmm. Il n'a pas honte.
Oui, oui.
Vous comprenez tout de suite qu'il a acheté la place en finale.
Ah oui, oui, c'est normal.
Mais ça, moralement pour vous, ça ne vous pose pas un problème ?
Disons qu'il y a un petit syndrome de l'imposteur après ça.
Oui, quand même.
Léger. Non, ce sont les règles du jeu, donc j'ai joué. J'ai joué. Mmh. Et je savais, c'est pour ça que je n'ai jamais pris la grosse tête non plus, parce que je me disais, voilà, j'ai eu de la chance, j'avais un certain talent, quand même j'imagine, qui a été exploité de la bonne manière avec les bons protagonistes. Et voilà, j'ai gagné un truc. Mmh. J'ai gagné cette partie. Donc, pour moi, c'était comme un jeu et je ne le prenais pas vraiment au sérieux et je ne laissais pas cette expérience me définir en tant que personne.
Oui. C'est-à-dire que vous aviez votre vie personnelle, quoi.
Je ne me suis jamais dit, ça y est, je suis une star. Non. Je me suis dit, je vis un truc super.
Oui.
Voilà.
Quand vous rencontrez donc ce présentateur de télévision, tous les noms que vous avez donnés sont faux, évidemment, avec lequel vous avez donc cette liaison. Vous êtes la fiancée française de la star de la télé. Ça veut dire que d'entrée, vous savez que c'est perdu d'avance. Ou pas ? Ou vous êtes
Ah non, non, moi j'étais naïve. Hein. non, moi j'y croyais à mon conte de fées, à mon rêve chinois.
Donc vous étiez trop jeune pour faire ça.
Mais bien sûr, j'avais 22 ans, j'étais complètement naïve. Et puis je n'avais pas vécu cette période de maladie qui m'a ouvert les yeux sur énormément de choses.
On marque une pause et on continue de parler de cette histoire absolument incroyable tirée de votre livre qui s'appelle Le baiser de l'ouragan et qu'on trouve aux éditions Ring, signé Marine de Nicolas, sans S à la fin.
Et jusqu'à 15h sur Europe 1, vous écoutez Christophe Ondelat qui aujourd'hui vous raconte l'histoire et le parcours hors du commun d'une jeune femme française.
Je vous ai raconté aujourd'hui l'histoire de Marine de Nicolas tirée de son livre paru en 2017 chez Ring, Le baiser de l'ouragan, qui est donc l'histoire, votre histoire Marine, l'histoire d'une jeune française qui, parce que elle parle bien chinois, est enrôlée par un agent artistique de Pékin, légèrement mafieux, et qui réussit donc son pari puisque vous avez été Marine de Nicolas en finale de The Voice en Chine. Vous avez fait des concerts dans la foulée dans tout le pays, vous avez ensuite tourné pour une série télé très populaire là-bas et vous avez même été juré à The Voice, et tout ça s'est arrêté d'un coup sur un cancer qui vous a contraint à rentrer en France. Vous n'êtes pas retourné en Chine depuis, hein ?
Non, très peu.
Très peu ou pas du tout ?
Pas de cette manière-là.
Vous y êtes retourné ?
J'y suis retourné pour voir mes amis proches. Oui. Je n'ai pas fait de show business là-bas depuis.
On ne vous a pas paparazzé, on ne vous a pas pris en photo.
Ah, les cheveux rasés, je pense qu'il y avait un côté, on ne me reconnaissait pas. Ouais.
C'est possible. Alors évidemment, on a été très marqué dans cette histoire par cette tentative de viol, je ne sais pas si on peut l'appeler, vous diriez viol ?
Non, pas vraiment, c'est pas vraiment une tentative de viol, c'était plus des avances très poussées et malvenues.
Un monsieur très libidineux qui pense que gagné d'avance.
Voilà,
quoi.
C'est ça.
Alors c'est assez rigolo parce que ça, je n'ai pas eu le temps de la raconter, mais cette scène intervient juste avant que ce monsieur tombe de son piédestal. Mm-hmm. Il tombe pour corruption dans les mois qui suivent ou dans les semaines qui suivent. Hein. Mm. C'est pour ça que quand M. Liu vous dit « je me suis débarrassé de M. Wang », en vérité, c'est pas lui qui s'en est débarrassé.
Tout à fait.
Le système l'a exfiltré. C'est assez marrant parce que cette scène, d'une certaine manière, on s'y attendait un peu. Mais pour vous dire la vérité, moi, je m'y attendais de la part de Liu. Je pensais qu'il avait ça en tête aussi, vous mettre dans son lit.
Pas du tout. Pas du tout. Monsieur Liu, je pense qu'il, malgré tout ce qu'il me disait, il m'accordait beaucoup de valeur. Et si il me faisait des avances, j'allais m'enfuir, je n'allais pas rester. Donc il m'aurait perdu. Alors il n'a jamais tenté. Et je pense qu'il n'y pensait même pas. Pour lui, j'étais matière à lui rapporter de l'argent. Je n'étais pas une de ses maîtresses. Non, pas du tout.
Et on rigole pas avec ça. C'est-à-dire avec l'argent. Ouais. C'est sérieux. Mais en même temps, vos copines, là, celles qui parlent dans votre dos, elles disent qu'elle a couché avec.
Oui, ce sont des rumeurs.
Elles ont couché avec elle ?
Absolument pas.
Aucune ?
Non, monsieur Liu, de ce côté-là, était carré.
Ses copines, justement, parlons-en. Bon, elles sont extrêmement jalouses, puisque au fond, il leur a toutes promis qu'il va finir par vous donner à vous.
Exactement. Leur jalousie a été causée par la manipulation du manager. Elles n'étaient pas jalouses de moi naturellement. C'était la politique du manager qui était employé, qui était divisé pour mieux régner. Clairement. Il nous payait différemment, il nous logeait différemment, donc il y avait forcément des jalousies. Il nous mettait en compétition constamment.
Ouais. Il leur avait vraiment promis de faire The Voice ?
Il leur avait fait des promesses, oui, en effet.
Elles sont toujours là-bas, elles ?
Certaines le sont, certaines sont parties.
Vous êtes restée en lien avec elles, avec ces filles ?
Oui, je suis en lien avec elles, oui. Ouais. Et aujourd'hui, on en rigole.
Il y en a qui ont souffert, parce que ça peut détruire. Vous, on l'entend maintenant, c'est assez rassurant. En fait, on comprend que vous avez une personnalité incroyable et que donc, au fond, d'une certaine manière, vous l'avez méprisé, Liu. Mais sur une personnalité fragile, ça peut amener très, 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 très loin.
C'est très dangereux. C'est très, très dangereux parce que je pense notamment à Julia, ma colocataire.
La Russe.
La Russe, qui était une personne fragile.
Oui.
Qui n'avait pas des bases vraiment solides. Qui notamment avait une enfance difficile où elle avait été célèbre dans son pays très jeune. Et elle, malheureusement, elle était à pieds joints. Elle a sauté à pieds joints dans tous les pièges de Liu, quoi.
Ouais.
Alors que moi, mine de rien, je savais que je pouvais rentrer à l'appartement, skyper mes parents, leur demander leur avis. Et j'avais toujours ce recul sur les choses.
Ouais.
Et cette base, en fait, cette stabilité, je savais que si ça capotait en Chine, je pouvais rentrer chez moi et tout irait bien pour moi.
Ouais. Il n'y avait pas
alors
de risque.
Alors que Julia avait tout donné pour cette carrière.
Il fallait que ça marche.
Il fallait que ça marche, alors que moi, non. Et c'est aussi ça qui a fait que je pense ma collaboration avec Liu a bien marché. C'est parce qu'il savait que je n'avais pas vraiment besoin de lui. Il savait, en tout cas, je lui laissais entendre que si j'avais envie de partir, je le ferais. Et s'il dépassait les limites, je partirais.
Alors, ce qu'on voit très très bien, c'est que vous me dites, maintenant que je vous entends, je comprends l'histoire un peu différemment. Quant à vous dites je m'en vais, qu'il vous dit très bien, rends la clé de cet appartement, que vous bluffez en disant que vous avez un agent américain, ce qui n'est pas vrai, et qu'à la fin il aligne les 6-0 d'un contrat pour vous faire marche arrière. À ce moment-là, moi quand je l'écris, je me dis elle est très faible. Et maintenant ce que je vois, quand je vous vois là avec cette personnalité absolument incroyable, je me dis non, elle est très forte. C'est-à-dire qu'elle va encore lui prendre ce qu'elle peut lui prendre.
Vous savez, je suis un peu comme une joueuse de poker. J'aime bien jouer à la naïveté, mais au fond, je sais ce que je fais.
Ça changeait vraiment tout le devenir. Alors ça, c'est un truc qui m'a surpris. C'est-à-dire qu'arriver en finale de The Voice, c'est un talent. Mais être juré à The Voice, c'est juste avoir une grande gueule. C'est pas forcément avoir un talent.
Mais dans la vie, il y a beaucoup de choses qui sont liées au fait d'avoir une grande gueule.
Oui. Et ça marche. C'est parce qu'on devient plus une star parce qu'on est juré à The Voice que quand on va en finale.
Ça dépend. Vous savez, chaque carrière est différente. En fait, quand on est juré, je pense qu'il y a quelque chose d'indiscutable. Voilà, on nous demande notre avis en tant qu'expert. Chose que je n'étais pas vraiment. Mais c'est une illusion. C'est une illusion. L'illusion d'être un expert, ouais.
Alors moi, je me mets à la place un peu des gamines de 18-19 ans qui sont là, qui nous écoutent et qui ont lu votre livre avant. Bon, on se dit, c'est dangereux, tout ça, c'est risqué, mais c'est faisable. Est-ce qu'aujourd'hui, dire, ok, j'ai 18 ans, je me donne un an pour apprendre le chinois, en travaillant intensivement, je suis une jolie Française, je débarque en Chine, est-ce qu'on peut refaire le coup que vous avez fait ?
Je ne saurais pas vous répondre. Parce que je pense que, pour mon expérience, oui, vous savez, tout est possible. Je ne pense pas qu'il y ait des schémas comme ça qu'on peut reproduire pour avoir une réussite à coup sûr. Je ne crois pas trop à ça. Je pense qu'il y a un facteur timing, il y a un facteur bon endroit, bon moment, la bonne attitude. Et en fait, il se passe des choses, voilà, c'est un peu cosmique, quoi. On ne sait pas trop pourquoi. Donc, je ne peux pas dire suivez ce chemin et vous arriverez à la même chose. Voilà, c'est... Je ne peux pas dire ça. Je pense que chaque chemin est différent, chaque chemin est à créer, et c'est ça qui est intéressant, justement.
Si vous rentrez en Chine, là, comme semble-t-il, ça vous titille un peu pour reprendre votre carrière de comédienne et de chanteuse, est-ce qu'il est possible aujourd'hui en Chine de la reprendre sans M. Liu ou sans l'équivalent de M. Liu? Il doit y en avoir d'autres. Est-ce que vous pouvez la reprendre seule?
Je suis persuadée que c'est possible. Je pense vraiment qu'avec beaucoup de volonté, on peut créer sa vie en dehors des cases.
Ouais.
Aujourd'hui, moi, je ne veux pas reprendre la carrière que j'ai laissée en Chine parce que j'ai énormément évolué depuis. J'ai appris énormément de choses, notamment en faisant face à la mort. Et aujourd'hui, j'ai le désir de remonter sur scène en Chine pour parler au public, pour chanter mes chansons, pour communiquer mes messages. Je n'ai aucune envie de retourner dans un rôle de marionnette. Donc soit j'arrive à créer ce nouveau chemin qui est le mien et qui fait profondément sens pour moi, soit je n'y retourne pas.
Vous avez des chansons de prête?
Peut-être bien.
Vous savez, ce qui me ferait énormément plaisir, c'est que vous, comme ça, un peu a cappella, vous me fassiez 20 secondes en chinois d'une chanson que vous avez en tête à vous.
Ok. Le projet que je prépare en ce moment musical est plutôt français.
Oui.
Mais comme vous voulez une chanson chinoise, je vais vous chanter un petit extrait d'une chanson chinoise que j'aime bien.
Allez-y.
Hey, 我真的好想你 现在窗外边又开始下着雨 眼睛干干的 有想哭的心情 不知道你现在在哪里
Mais pour faire ça, il faut avoir une sacrée technique vocale, déjà. Donc vous êtes vraiment une chanteuse.
Vous voyez, on peut devenir absolument tout ce qu'on veut.
Vous en êtes à quel niveau? Au niveau de la langue chinoise? C'est-à-dire pendant ces 4 ans, vous vous êtes maintenu? Vous avez travaillé? Ou il faut reprendre un peu à zéro?
Heureusement pour moi, j'ai de très bons amis chinois à Paris.
Oui.
Et donc j'ai pu pratiquer mon chinois et me tenir au courant un petit peu de ce qui se passe en Chine. Donc mon chinois est à jour.
Vous êtes formidable, je vous trouve éminemment sympathique, Marine de Nicolas. Vous avez écrit « Le baiser de l'ouragan », un livre témoignage formidable sur cette incroyable aventure, publié l'année dernière chez Ring, ça veut dire qu'on le trouve toujours, en papier et en numérique. Merci Marine.
En papier seulement.
En papier seulement. Il n'est pas en numérique?
Non.
Ah, vous ne voulez pas qu'il aille en Chine, hein, ce livre?
Je vous avoue que je trouve qu'il est très bien en France, et voilà.
Merci beaucoup, et vous qui nous écoutez, rendez-vous demain. À 2h de l'après-midi.
Et nous serons là, bien sûr, avec vous, Christophe Ondelat, pour ces nouvelles histoires, ces nouveaux récits qu'on peut réécouter, hein, bien sûr, dès maintenant sur Europe 1.fr en podcast.